Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis également membre du conseil scientifique de l'Institut Mines Télécom. Donc c'est aussi pour ça que, parce que je travaille sur l'intelligence artificielle en fait depuis 2009, donc une dizaine d'années maintenant. Et puis c'est un sujet qui est arrivé dans le domaine de la santé et de par mes fonctions, il m'a été confié. Donc déjà l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une technologie en fait qui est issue du big data. C'est-à-dire que pour faire de l'intelligence artificielle, on va avoir besoin de données. Et en fait, c'est une technologie qui fait de l'analyse, parce que les technologies big data, ce sont des technologies d'analyse qui font en fait essentiellement une chose, c'est-à-dire qu'elles génèrent des hypothèses à haut débit. En fait, vous prenez énormément de données et vous appliquez les algorithmes de big data et vont essayer de vous détecter en fait des corrélations entre les données. Et les corrélations ne sont pas des causalités, donc ce n'est pas des vraies réponses, c'est des hypothèses de réponse. Et donc en fait, une technologie big data, c'est une technologie d'analyse qui génère des hypothèses à partir de grands ensembles de données. Donc comment ça fonctionne? Vous allez récupérer en fait tout un tas de données de manière massive, de différentes sources. Vous allez bien évidemment les nettoyer, les standardiser. Ça, c'est l'étape un peu plus compliquée. Puis vous allez croiser en fait ces données, les analyser. Et là, vous allez avoir deux choses. Alors, attention, c'est les termes mathématiques, mais c'est pas compliqué. C'est les algorithmes de régression ou les algorithmes de clustering. Je vais en parler plus en détail après. Un prérequis qui est essentiel pour pouvoir mettre en place ces technologies-là, c'est qu'on va avoir besoin de sources de données qui soient interopérables, c'est-à-dire qui sont en capacité en fait de communiquer entre elles. Et puis, il y a une autre problématique, en fait, c'est que, étant donné qu'on met énormément de données, et notamment là, dans le cas de la santé, des données donc sensibles, au même endroit, bien évidemment, les mesures de cybersécurité doivent être plus fortes. Je vais vous donner un chiffre. En 2016, 30% des attaques de hackers au niveau mondial, c'était contre des clusters de données de santé. Parce que c'est tout simplement la donnée la plus chère au monde. Donc dès que vous créez des énormes clusters de données de santé, ça devient très intéressant en fait pour les hackers. Donc d'habitude, je fais un petit parallèle avec le dossier médical partagé que le gouvernement veut mettre en place, mais on m'a demandé d'arrêter parce qu'il faut le déployer. Mais c'est extrêmement dangereux de tout mettre au même endroit, bien évidemment. Petit fait intéressant, si vous prenez les données issues des articles scientifiques, donc il y a 2,5 millions d'articles scientifiques qui sont publiés par an, donc ça fait énormément de données. Alors après, il y a une autre chose, c'est que l'Institut Metrix, qui est un institut qui analyse la qualité de la bibliométrie mondiale qui est à l'université Stanford, a aussi démontré que 85% des données publiées étaient fausses. Donc ça fait beaucoup de données et en plus après il faut faire le tri dedans. Et si on prend la France au niveau des bases de données utilisables en fait pour pouvoir faire des choses dans le domaine de la santé, aujourd'hui il y en a 260, alors elles ne sont pas forcément interopérables entre elles. Mais voilà, en tout cas il y a des ensembles de données massifs qui existent, puis bien évidemment toutes les données qu'on peut trouver dans les hôpitaux. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas des mathématiques, c'est juste une illustration. Le big data et le machine learning, en fait, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, vous allez avoir des données. Donc, vous prenez le graphe qui est ici même, tout en haut. Et en fait, chaque point est un ensemble de données. Et donc, votre algorithme va essayer en fait de trouver la droite qui minimise en fait les espaces entre l'ensemble des données. Et du coup, dès que vous avez une nouvelle donnée en abscisse ou en ordonnée, vous pouvez, en vous projetant sur la droite, trouver sa valeur sur l'axe opposé. Donc ça vous permet en fait de générer des réponses à partir d'un ensemble de réponses que vous aviez déjà eues, et c'est la même chose en dessous, mais avec des comportements qui sont plus complexes, et donc ça suit en fait des courbes, et c'est comme ça que les algorithmes fonctionnent, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir générer, alors c'est vous qui allez déterminer les caractères qui sont importants, donc le caractère que vous allez retrouver sur l'axe X ou sur l'axe Y, en fait, donc ordonnée ou abscisse, et puis vous allez demander en fait à l'algorithme de tracer une droite. Et après, dès que vous allez lui donner une valeur sur l'axe X ou sur l'axe Y, il va se projeter sur cette droite et pouvoir trouver du coup l'autre valeur et donc vous donner une réponse. Et puis, il y a les algorithmes de clustering. Ça, c'est des algorithmes qui vont essayer en fait de déterminer les ensembles de points qui sont communs. C'est-à-dire vous avez des nuages de points en fait. Et vous allez lui dire, imaginez que par exemple, tout ça, c'est des patients qui ont le cancer avec des caractéristiques en fait particulières. Et admettons, ils ont tous le cancer du poumon, par exemple. Et puis vous allez essayer de déterminer peut-être qu'il y a des sous-cancers du poumon Alors je lui ai donné des données et peut-être qu'il va réussir en fait dans ses sous-cancers du poumon à me détecter différents groupes et me montrer qu'en fait il existe donc là trois groupes et que sur ces trois groupes on pourrait appliquer des traitements différents pour avoir des meilleurs résultats plutôt que d'appliquer le même traitement à tout le monde et d'avoir donc des groupes où ça marche très bien et des groupes où ça marche moins bien. Donc en fait le clustering c'est simplement du regroupement de points et donc vous allez pouvoir détecter en fait des sous-compositions de vos ensembles de données. Si on prend l'intelligence artificielle cette fois-ci, donc parce que le big data en soi, si vous voulez, c'est pas de l'intelligence, c'est les mathématiques pures et dures, mais vous devez vous-même en fait déterminer les caractéristiques qui sont importantes. Sur le système d'intelligence artificielle, ça va marcher à peu près pareil, sauf que là, vous n'aurez pas à déterminer les caractéristiques qui sont importantes, c'est les algorithmes qui vont les déterminer pour vous. Et pourquoi c'est une grosse avancée? Parce que si par exemple je vous dis, ben, voilà, je vous donne des photos de chats et puis des photos de lions, et indiquez-moi les règles qui permettraient à un algorithme de faire la différence entre les deux. Ben, c'est très dur en fait. C'est des règles qui sont complexes en fait. Et donc l'humain n'est pas capable en fait, ou alors ça prendrait ben, des dizaines et des dizaines de milliers d'heures avec des centaines de développeurs pour tracer toutes les règles pixel par pixel pour que ça puisse faire les choses. Et en fait, l'algorithme d'intelligence artificielle, lui, il va déterminer lui-même en fait les règles qui sont importantes. Donc il va fonctionner à peu près pareil avec une étape en plus, c'est-à-dire que vous allez récupérer en fait des échantillons, enfin des ensembles de données. Et sur ces ensembles de données, il y a une caractéristique, en fait, c'est qu'on leur applique une étiquette, en fait, un peu comme une réponse. Imaginez sur ces photos de chat et ces photos de lion, eh ben, en plus de la photo, eh ben, il y a une étiquette qui dit si c'est un chat ou si c'est un lion. Et donc, vous allez donner toutes ces données, en fait, à l'algorithme, et puis il va les décomposer, et il va essayer lui-même, en fait, de déterminer les règles. Et donc, après, il va se paramétrer, il va apprendre, et il va générer un modèle. Et c'est important la génération du modèle. Pourquoi? Parce que les algorithmes d'intelligence artificielle, ils apprennent pas tout le temps en fait. Hein. Ça, c'est un méga fantasme. Un algorithme d'intelligence artificielle, il a des phases d'apprentissage et des phases d'exploitation. Parce que s'il apprenait tout le temps, il ne ferait que apprendre. Il n'aurait pas de réponse en fait. Et il y a des algorithmes qui servent à apprendre et qui génèrent un modèle. Et c'est le modèle qui donne les réponses. Mais le modèle, il n'apprend plus. Donc, ils ne sont pas autonomes, ils ne peuvent pas apprendre tout plein de choses et tout. Mais c'est vraiment important de le dire parce que, voilà, il y a énormément de fantasmes. Et s'il apprend ça par lui-même et tout, non, il va s'améliorer d'ailleurs dans les choses. C'est ce que j'ai mis tout en haut. Donc, c'est un traitement du signal, mais qui est auto-optimisable. Il va apprendre à mieux faire la chose, mais il ne va pas apprendre à faire de nouvelles choses par lui-même, en fait. Et puis, il va créer un modèle surtout. Et c'est ce modèle qui donne les réponses. Mais le modèle, il n'apprend plus, lui. Donc au niveau des prérequis d'usage, c'est la même chose. On a besoin bien évidemment de gros sets, de gros ensembles de données. On a besoin bien évidemment de données qui sont alors nettoyées et puis surtout standardisées, représentatives. Il y a énormément de biais en fait autour des données. C'est-à-dire que si vous donnez des données pourries à un algorithme d'intelligence artificielle, il vous donnera des résultats pourris. Il n'y a pas de miracle. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment un prérequis qui est extrêmement fort. Et il y a plein d'aspects à regarder pour éviter en fait tout un tas de biais. Parce que les biais cognitifs qu'on retrouve chez l'humain, étant donné que les modèles d'intelligence artificielle, sont calqués sur nos modèles en fait, de réflexion, eh bien, il y a certains biais cognitifs qu'on retrouve dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fonction des sets de données qu'on leur donne, vous allez pouvoir les retrouver. Par exemple, il y a un cabinet de recrutement qui avait fait lire en fait un algorithme d'intelligence artificielle tous les CV et puis il avait dit cette personne on l'a pris ou cette personne on l'a pas pris et après ils ont fait tourner leur modèle puis ils se sont aperçus que l'algorithme eh ben malheureusement il ne recrutait jamais des femmes et en fait c'est tout simplement parce qu'il leur a montré leur comportement, il leur a rebalancé leur comportement à la figure, l'algorithme en analysant tous les CV il y a des choix qu'il ne comprenait pas et donc il a dit ben, par rapport au profil en fait, aux compétences et tout je vois pas donc il doit probablement y avoir une règle par rapport au sexe. Et donc, il a déterminé cette règle. Donc, on voit bien que si on lui donne des données particulières, ben, il va donner des résultats qui sont particuliers. Fait intéressant, il y a des gens qui vous expliquent, comme Laurent Alexandre et d'autres, que les GAFA ont tellement d'avance et qu'on ne pourra plus rien faire en intelligence artificielle, qu'on est complètement à la ramasse et tout ça. L'intégralité des algorithmes d'intelligence artificielle, ils sont téléchargeables en open source sur Internet. Hein. Parce qu'en fait, ils ont des dizaines et des dizaines d'années. Vous avez dû voir Google DeepMind qui bat le meilleur joueur au jeu de Go. Alors déjà, c'est Google DeepMind, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une start-up que Google a rachetée. Donc déjà, c'est même pas Google qui avait développé le truc. Ils ont juste racheté la start-up et assuré la campagne de communication. Mais en plus, DeepMind a utilisé deux algorithmes pour faire ça, le Monte Carlo Tree Search et les réseaux de neurones à convolution. Deux algorithmes qui ont 30 et 50 ans. Voilà, c'est juste qu'après, il fallait que quelqu'un dépense 100 000 euros pour faire un serveur spécialisé pour jouer au Go. Pensez bien qu'il n'y avait pas énormément de gens qui avaient envie de ça. Et donc, ça, dans le grand public qui n'y comprend pas grand-chose, ben forcément, tout le monde s'est dit oh, incroyable et tout ça. Enfin, pour ceux qui connaissaient le jeu de Go. Parce qu'il y en a plein qui ont découvert le jeu de Go avec ça. C'est bien, ça l'a démocratisé. Mais dans la communauté scientifique, je veux dire, personne n'a été surpris. On savait juste qu'il fallait dépenser 100 000 euros pour prendre un serveur et le configurer pour jouer au Go avec le Monte Carlo Tree Search et les réseaux de neurones à convolution. Par ailleurs, il y a une autre problématique, en fait, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, ils fonctionnent très bien, donc je vous ai dit, en fonction du type de données. Il faut que les données soient propres et tout ça, mais il faut aussi que les données, elles soient standardisées. Parce que, par exemple, si un système d'intelligence artificielle, je lui donne des données dans lesquelles je dis, ben, ça, c'est de l'oncologie, ça, c'est de la cancérologie, ça, c'est de la carcinologie. Ben, en fait, pour l'algorithme, ça va être trois choses différentes. Alors qu'en fait, c'est la même chose, c'est juste de la synonymie. Et on peut aussi avoir les variabilités de langue, de profondeur d'information, un cancer du poumon et un adénocarcinome pulmonaire. Donc tout ça, comme il n'a aucun bon sens, pour lui, c'est des choses qui sont différentes en fait. Et dans le domaine de la santé, et donc il y a les données qu'on appelle discrètes, c'est-à-dire les chiffres et tout ça, ou les pixels, ça, il les manipule extrêmement facilement. Et puis il y a d'autres données qui sont beaucoup plus complexes pour lui, qui sont le texte produit par des hommes. Parce que vous prenez une machine, vous prenez par exemple un appareil photo, vous prenez deux fois en photo exactement au même endroit, au même moment, la même chose, il va vous donner deux photos exactement les mêmes. Vous prenez deux êtres humains, vous leur demandez de décrire la scène, vous aurez deux descriptions qui sont différentes. Parce que tout simplement, l'humain, il produit une donnée qui est en fait complexe, qui est son interprétation des choses. Eh ben, 80% des données textuelles dans le domaine pardon, 80% des données dans le domaine de la santé, c'est du texte. Donc, pour commencer à faire des systèmes d'intelligence artificielle qui font autre chose que de la radiologie, ou en tout cas qui font du trait qui se basent sur le traitement de l'image, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, justement, au niveau du traitement de l'image, comment ça marche en fait les algorithmes d'intelligence artificielle? Ben, en fait, vous allez lui donner des tonnes et des tonnes de radios, et lui, il va les décomposer, comme je vous disais. Et donc, la première décomposition qu'il fait d'une image, en fait, c'est le pixel. Et donc, il va regarder pixel par pixel. Et puis, au-dessus, vous allez avoir, donc ça, c'est ce qu'on appelle la couche en fait d'entrée, c'est-à-dire, il va lire tous les pixels. Il y a un neurone qui va lire chacun des pixels. Et puis, au-dessus, il y a une autre couche de neurones, en fait, qui lui va détecter bah, des lignes ou des courbes. Et puis, bah, s'il détecte des lignes et des courbes, ils vont s'activer, puis ils vont du coup envoyer une information à une couche de neurones encore supérieure, qui elle va déterminer bah, des carrés, des cercles, des choses comme ça. Vous voyez, c'est des formes de plus en plus complexes, en fait. Jusqu'à être en capacité de dire, bah, écoute, dans cette radio, il y a une tumeur ou il n'y a pas de tumeur. En fait, c'est lui qui décompose l'image, qui détermine les règles, en fait. Et il va à des niveaux d'abstraction extrêmement forts que nous, on n'est pas capable en fait d'appréhender. Et donc, à chaque couche de neurone, on est sur une information de plus en plus compliquée, mais qui est activée par les couches d'avant. Donc, attention, il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ces algorithmes, mais notamment le premier qui est qu'un algorithme d'intelligence artificielle, il peut tout prédire. Vous savez, il y a plein de gens qui vous disent, ah, on va pouvoir prédire ça, on va pouvoir prédire ça. Il y a des gens, on va analyser leur ADN, on va pouvoir prédire les maladies qu'ils vont développer. Ou pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a une nuance qui est très importante. Est-ce que l'information ou le phénomène que je suis en train d'analyser, il est compliqué ou il est complexe? Alors, je vais vous donner un moyen mnémotechnique assez facile pour comprendre. Fabriquer un A380, c'est compliqué. J'ai une chemise blanche. Imaginez que je mange un plat de spaghettis à la bolognaise ce midi. Savoir où les taches de bolognaise vont arriver sur ma chemise, c'est complexe. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que si je sais fabriquer un A380, je sais tous les fabriquer. Alors que si je sais où le plat de spaghetti va envoyer des taches sur ma chemise, bah chaque plat de spaghetti, c'est différent. Et dites-vous que l'humain, c'est un énorme plat de spaghetti. Donc déjà, les humains, on est sur des choses qui sont complexes. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prédire qu'on ne peut pas prévoir, mais on va voir la nuance entre les deux approches. Alors après, donc, les gens qui vous disent, bah, à partir de l'analyse du génome, on va pouvoir déterminer les maladies. Alors déjà, le génome, c'est juste une carte d'action. Enfin, c'est une carte de potentiel d'action, pardon. mais un potentiel qui s'exprime en fait en fonction de ce que la cellule va vivre. Et la cellule, elle va réagir en fonction de ce que le tissu va vivre. Et le tissu en fonction de l'organe, et l'organe en fonction de l'organisme, et l'organisme en fonction de sa vie. Alors quelqu'un qui vous dit à partir de l'analyse de votre génome, qui est fixe, sans compter les mutations qui se passent durant votre vie, mais qui est fixe, savoir tout ce que vous allez vivre dans votre vie et donc déterminer votre santé, soit il a écouté ça quelque part, il veut faire l'intéressant dans un dîner, il le ressort, soit on est sur du charlatanisme. Mais ce n'est pas possible. Donc, outre le phénomène compliqué et complexe, même tout ce qui est, alors, tout ce qui est complexe, on ne peut pas le prédire, mais on peut le prévoir. Et ce qui est compliqué, on ne peut pas forcément non plus tout prédire. Vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir des choses qui sont calculables et des choses qui ne sont pas calculables. Parce que tout n'est pas calculable dans la vie. Par exemple, alors là, j'ai des exemples, mais ils sont un peu compliqués, comme la théorie du chaos ou des choses comme ça. Alors, je vais passer dessus. Et puis après, il y a autre chose, en plus de ne pas être calculable. C'est est-ce que le système, il va pouvoir, en fait, me donner ma réponse dans un temps qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire, imaginez, on a réussi à faire une modélisation et tout ça, de l'ensemble de votre corps et tout, sauf que l'ordinateur, il va mettre 1000 ans à donner une réponse et le médecin, il en a besoin pour demain. Dans ce cas-là, c'est la même chose, on ne peut pas prédire, en fait. Et donc, quand on ne peut pas prédire, on peut prévoir. C'est quoi la différence entre les deux? La prédiction, c'est déterministe. Attention, ne prenez pas ce bateau, il va couler à tel endroit, à tel jour. Prévoir, c'est statistique. Attention, si vous prenez ce bateau, prenez un gilet de sauvetage, assurez-vous que les canaux de sauvetage ils fonctionnent bien parce qu'il va y avoir une grosse tempête et donc le bateau pourrait couler. Mais vous voyez que d'un point de vue liberté, on n'est quand même pas du tout sur les mêmes choses. Alors là, il y a plein de jeunes, alors ça va être marrant pour les réseaux sociaux. Il faut savoir en fait que les algorithmes d'intelligence artificielle, ils fonctionnent déjà sur les réseaux sociaux, c'est eux qui sélectionnent en fait les informations qu'on vous envoie, parce que vous ne recevez pas toutes les informations de toute votre sphère sociale. Il y a un algorithme qui fait des choix. Et en fait, cet algorithme, je vais vous expliquer un peu ce qu'il produit chez vous. Si vous prenez un algorithme classique, en fait, il va avoir des propositions, et il va proposer à pourcentage égal, en fait, chacune des propositions, et vous allez faire un choix. Si vous avez un algorithme apprenant, ce qui va se passer, c'est que la première fois, il va vous proposer de manière égale les choix, puis vous allez choisir, et de ce choix, en fait, il va apprendre, et la fois d'après, votre choix, il aura un pourcentage un peu plus élevé, votre choix précédent. Donc vous aurez aussi plus de possibilités, en fait, du coup, de le choisir, et ainsi de suite. Et en fait, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de bubble filter. En fait, c'est un filtre qui crée une caricature de vous-même et qui vous conforte dans vos idées. C'est pour ça que, par exemple, si vous regardez lors des campagnes, en fait, politiques, prenez la campagne américaine, les gens qui suivaient du camp d'Hillary Clinton, qui suivaient en fait l'évolution des réseaux sociaux et tout, ils n'ont rien vu en fait de la vague Donald Trump, parce que les algorithmes leur disaient, mais eux ils sont pro-Hillary, donc je vais leur envoyer des informations pro-Hillary en fait. Et donc ils n'ont absolument pas vu le reste. Le reste existait, mais l'algorithme en fait les a mis dans une bulle. Et il fait la même chose. Donc en fait ces algorithmes-là ont une tendance en fait... pour être un peu extrême, à nous rendre de plus en plus cons, parce qu'en fait, ils nous confortent dans nos idées et il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus de... Vous voyez, vous n'avez pas de choses où vous allez dire, au final, cet argument, il est peut-être vrai, je ne le considérais pas avant, mais il est peut-être vrai et donc je vais me remettre en question. Donc, il faut faire très attention à l'information issue de ces réseaux. Après, on va avoir une problématique sur l'autonomie de jugement. Là, c'est pareil, en fait. Quand je dois prendre une décision, j'ai deux choix. Enfin, j'ai toujours deux types en fait de décisions. Soit j'ai envie de la prendre, soit je dois la prendre. Alors j'ai envie de la prendre parce que c'est un choix personnel. Par exemple, j'ai envie de partir en vacances à tel endroit. Donc j'ai la liberté en fait de choisir. Je peux choisir même de ne pas choisir. Et puis surtout, j'ai la sécurité, c'est-à-dire que c'est mon envie, c'est mon propre choix. Si je me plante dans ma décision, je passerai les vacances pourries. C'est pas grave. Et puis il y a « je dois ». « Je dois », c'est une contrainte. Je dois prendre une décision parce que j'ai la vie du patient entre les mains. Je dois prendre une décision parce que mon boss me l'a demandé. Et donc là, je suis dans un état de précarité. Si je prends la mauvaise décision, je peux tuer le patient, je peux me faire virer, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur la prise de décision? On ne va pas du tout être sur les mêmes comportements. Si je n'ai pas assez de temps ou d'informations en fait, pour prendre la bonne décision, je vais me confier à mon intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est votre cerveau, en fait, qui regarde dans vos expériences passées. Est-ce que j'ai déjà rencontré un cas similaire? Ok, quelle décision j'avais prise? Et donc, je fais un lien entre les décisions qu'on m'offre aujourd'hui et la décision que j'avais prise la dernière fois. Et donc, vous allez vous dire, mais soit je me fie à mon intuition, soit à côté de moi, j'ai un algorithme d'intelligence artificielle qui a 0,001% d'erreur. Ben, je vais plutôt lui faire confiance, hein. Sauf que 0,001% d'erreur, ce n'est pas 0% d'erreur. Et comme l'algorithme, il est extrêmement utilisé, 0,001% d'erreur fois la loi des grands nombres, parce qu'il est utilisé des millions de fois par des milliers d'utilisateurs, ben ça fait des dizaines de milliers d'erreurs. Et donc, il faut faire attention en fait à l'autonomie de jugement, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui utilisent des systèmes d'intelligence artificielle soient capables de dire, ben, là, j'ai l'impression quand même que l'algorithme il s'est planté. Et donc, même si je n'ai pas confiance dans mon choix, il ne faut pas non plus que j'ai une confiance aveugle dans le sien. Parce que sinon, en fait, je me mets en état agentique, c'est-à-dire qu'en fait, entre la demande de prise de décision et les options que je choisis, je délègue en fait cette information. Et je vais vous donner un biais cognitif qui est extrêmement intéressant par rapport à ça. Alors, ça a demandé un petit calcul mathématique, mais il n'est vraiment pas compliqué. C'est des mathématiques, hein, de toute manière, l'intelligence artificielle, donc il faut faire avec. Mais non, mais imaginez, en fait, vous avez un diagnostic qui fonctionne dans 99% des cas. Dans 99% des cas, il donne la bonne réponse. Et puis, il sert à détecter, en fait, une maladie qui apparaît chez une personne sur 1 000 dans la population. Eh bien, si je teste toutes les personnes de la population, combien j'ai de personnes, en fait, qui ont été détectées? Ben, j'en ai une qui avait vraiment la maladie, plus 10, parce qu'il y a 1% d'erreur, plus 10 en fait qui ont été faussement détectés. Donc en fait, sur les 1 personne sur 1 000 qui ont vraiment la maladie, le système il en a détecté 11. Donc en fait, quand j'ai la maladie, qu'est-ce qui se passe? J'ai en fait 89% de chances de ne pas l'avoir. Ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'oubli de la fréquence de base. Et en fait, c'est quoi? C'est qu'on ne prend pas en considération le pourcentage de chances que ce phénomène arrive. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les algorithmes et la Food and Drug Administration, qui est l'autorité qui autorise les produits de santé aux États-Unis, a autorisé, en fait, parce qu'elle voulait, elle aime bien toujours être la première, elle a autorisé des systèmes d'intelligence artificielle sur la rétinopathie et sur d'autres choses. Eh bien, ils ont 12% de faux positifs en vie réelle. Imaginez si le système de santé se prenait 12% de patients qui viennent pour rien. Il explose. Parce que tout simplement, le système ne connaît pas la fréquence de base, en fait, de cette maladie dans la population. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on lui apprend avec les données, on lui donne essentiellement des données de gens qui sont malades ou pas malades, mais pas représentativement de la quantité qu'il y a dans la population. Parce que c'est très difficile d'être représentatif. En fait, vous aurez en fin de compte trop peu de données pour que le modèle converge vers une réponse. Donc, les algorithmes, ils vont faire des erreurs. Donc, en fait, ce qui est très important sur le concepteur, parce que tous les algorithmes d'intelligence artificielle feront des erreurs. Ce qui est important, c'est que le concepteur soit en capacité de déterminer combien il y a de faux positifs, combien il y a de faux négatifs. Et puis, bien évidemment, ne pas mettre sur le marché des choses qui ont des taux de faux positifs ou de faux négatifs trop importants. Et bien évidemment, l'usager doit être informé de ces taux et doit être en capacité de dire, OK, là, il s'est trompé. Donc, il faut des formations qui sont encore plus assidues. Il y a des gens qui, j'entends dire des gens qui me disent, du coup, on va pouvoir réduire les années de médecine. Ah ben non, parce qu'il faudra des médecins encore plus confiants, en fait. Alors, pas non plus trop obtus, mais encore plus confiants dans leur choix. Et on pourra réapprendre quelque chose qu'on a beaucoup désappris en médecine, qui est la sémiologie. Parce qu'on a beaucoup fait confiance aux technologies et de moins en moins à l'homme. Mais les technologies font aussi des erreurs. Après, si on parle de cybersécurité, il y a aussi une autre problématique. Quand vous avez un algorithme qui est classique, vous hackez le serveur, vous réécrivez le code. Et l'algorithme est modifié et va vous donner d'autres résultats. Mais c'est très facile à voir, vous allez regarder le code, vous voyez qu'il est modifié, voilà. Un algorithme d'intelligence artificielle, vous n'avez pas besoin de modifier le code. Parce que comme on l'a dit, il apprend par lui-même en fait. Il va paramétrer tout un tas de petits boutons qui sont ses différents neurones. Et ça, c'est impossible d'aller regarder comment il a fait. C'est des millions et des millions de neurones. On n'y comprend rien, en fait. On sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas trop bien comment il a paramétré et les règles, en fait, qu'il a données. Et donc, pour, en fait, corrompre, parce que c'est pas de la modification, pour le coup, c'est de la corruption, pour corrompre un algorithme, il suffit, en fait, de lui donner des mauvaises données et des mauvais feedbacks, en fait, par rapport aux réponses qu'il nous donne. Et donc, il va avoir un mauvais apprentissage, et en fonction de ce mauvais apprentissage, il va donner des mauvaises réponses. Donc, c'est beaucoup plus dur de détecter, en fait, parce que on va détecter qu'il donne des mauvaises réponses quand il aura donné, ben, malheureusement, un nombre significatif de mauvaises réponses. C'est aussi pour ça qu'on ne les laisse pas apprenants en permanence. Parce que sinon, on pourrait tous les hacker et ça serait une catastrophe. Et sans le savoir, en fait. Et pour moi, l'une des grosses problématiques par rapport aux GAFA et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. L'intelligence économique, pour faire simple, c'est les techniques du renseignement militaire appliquées à la guerre économique. Le premier à avoir fait ça, c'est le président Bill Clinton, qui avait dit à la NSA, écoutez, on a de moins en moins d'ennemis sur des guerres classiques. Donc on va mettre la NSA sur des fonctions de guerre économique, on va aller espionner les autres et tout ça. Et les algorithmes d'intelligence artificielle sont des outils d'intelligence économique et d'espionnage incroyables. Pourquoi? Parce que imaginez qu'en fait, entre vous qui êtes tout en bas, et vos clients, vos patients, peu importe, en fait, vous délivrez vos services soit assistés par une intelligence artificielle, soit carrément fournis par une intelligence artificielle. Eh bien, sous prétexte d'analyse et d'apprentissage, celui qui vous fournit votre modèle d'intelligence artificielle capte l'intégralité de votre capital informationnel. Alors, pour toutes les organisations de services et les industries de services, c'est un vrai problème. Et vous avez parlé du Free London Hospital. C'est exactement ce qui s'est passé à Londres. Google est venu les voir, leur a dit « Oh, ben, j'ai un super algorithme qui va vous aider à travailler sur l'insuffisance rénale ». Et donc le Free London Hospital a dit bah, « Fantastique, on va le mettre sur nos systèmes ». Et puis à un moment, le DSI a regardé, en fait, donc le directeur des systèmes d'information de l'hôpital, a regardé quel dossier avait ouvert l'algorithme. L'intégralité des dossiers. Alors ils ont été voir Google, ils ont dit bah, « On avait dit juste les insuffisants rénaux ». Ils ont dit « Oui, mais pour savoir si c'est un insuffisant rénal, il faut bien que mon algorithme ouvre le dossier et l'analyse ». Et donc ils ont récupéré l'intégralité des informations. Alors, concrètement, comment on fait dans le domaine de la santé? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, déjà, c'est une invention, ce n'est pas une innovation. Une innovation, c'est une invention qui rencontre un usage. Donc, pour que l'intelligence artificielle devienne une innovation, il faut prendre la technologie, la mettre sur un usage. Okay? Donc, l'usager, c'est quelqu'un qui est extrêmement important. Okay? Vous prenez n'importe quelle technologie. Je vous donne un exemple très simple pour comprendre la différence entre une invention et une innovation. Uber, est-ce qu'ils ont inventé le concept de taxi? Non. Ni le concept de VTC. Est-ce qu'ils ont inventé la géolocalisation? Non plus. Est-ce qu'ils ont inventé le paiement sur Internet? Non plus. Est-ce qu'ils ont inventé la notation des gens sur Internet? Non plus. Ils n'ont rien inventé, donc ils n'ont fait aucune invention. Par contre, ils ont pris tout un tas d'inventions et ils les ont mis sur un usage. Et là, ils ont innové. Pareil, quand l'iPhone sort, le tout premier iPhone sort, il n'y a pas une technologie qui a moins de 5 ans. N'importe qui aurait pu sortir l'iPhone à part Apple. Mais Apple a eu l'idée de prendre toutes ses inventions et de les mettre sur un usage et de créer l'iPhone. Donc quand vous voulez déployer en fait une technologie pour en faire une innovation, il faut travailler sur deux choses, la facilitation de la technologie et le développement des usages. Donc comme je l'ai dit, il va falloir travailler sur la complétion des dossiers médicaux, sur l'amélioration des dossiers médicaux, parce que si on donne des dossiers médicaux qui ne sont pas complets ou qui sont pas standards, qui sont des dossiers médicaux de faible qualité d'un point de vue informationnel, bah, l'algorithme va prendre des mauvaises décisions, va mal apprendre. Donc il faut travailler là-dessus. Après, il faut faciliter l'accès à des bases de données pour que les algorithmes, bien sûr, puissent apprendre. Et il faut mettre en place, en fait, des registres nationaux sur des typologies de données. Par exemple, comment on décrit une maladie, comment on la décrit convenablement, comment on nomme les choses, parce que chaque humain a sa propre façon de nommer les choses, et ça, l'algorithme, il ne peut pas le comprendre. Donc il faut au moins travailler sur la standardisation, en fait, de notre complexité. Et donc on peut développer ce qu'on appelle des ontologies, donc des réseaux de concepts, pour tout simplement lui expliquer que quand il découvre un adénocarcinome pulmonaire, eh ben, c'est un sous-concept du cancer du poumon, et donc il peut faire des liens. Et on peut d'ailleurs développer des ontologies avec des systèmes d'intelligence artificielle qui arrivent à créer par eux-mêmes en travaillant et avec une, une vérification humaine et une correction humaine, bien sûr, des systèmes ontologiques. Et puis, il faut mettre en place des collaborations. Parce que vous allez voir que c'est un domaine qui est hautement collaboratif. Et sur les usages, ben, va falloir identifier les besoins et les cas d'usage prioritaires. Parce qu'on nous met l'intelligence artificielle sur tout un tas de choses. Vous savez, tous les ans, probablement que vous connaissez le CES à Las Vegas. Ben, dans le domaine de la santé, un mois après, on a l'équivalent du CES qui s'appelle IMSS, qui est le plus gros salon sur la santé connectée. Et en fait, tous les ans, ben, vous avez les GAFA, vous avez tout le monde. On y va encore cette année. Et l'année dernière, ils arrivaient avec des incroyables algorithmes, des trucs très compliqués et tout, sur des choses dont on n'avait absolument pas besoin. Mais ils voulaient nous montrer, regardez ce qu'on arrive à faire. C'est bien, mais j'en ai pas besoin dans mon hôpital. Donc, il va falloir identifier les usages qui sont intéressants. Après, il va falloir travailler sur la preuve de l'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, on publie beaucoup plus des résultats d'intelligence artificielle dans des magazines généralistes que dans des magazines scientifiques. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas... Toute l'hystérie et la techno-hystérie, il faut faire extrêmement attention à ça. Ça reste des technologies, ça a des failles. Et donc, il faut vraiment travailler sur la preuve de l'efficacité. Ce que je vous ai dit sur les systèmes qui ont été autorisés par la FDA, donc ils étaient très contents, on est la première agence à faire ça, ben, les systèmes ont 12% de faux positifs. Il faut développer l'esprit critique, comme je l'ai dit, sur la capacité d'autonomie de jugement, donc la capacité à remettre en cause les résultats des algorithmes. Et du coup, il faut former les nouveaux médecins à s'approprier ces sujets, et pas forcément que les nouveaux médecins, mais là, on parle du domaine de la santé. Et puis, il faut la montée en compétence des acteurs des systèmes d'information, parce qu'à l'hôpital, on vient à peu près de sortir du Minitel. Donc là, on nous parle d'intelligence artificielle. Allez regarder les systèmes informatiques dans les hôpitaux. Il y a vraiment une montée en compétence à faire si on veut pouvoir utiliser des trucs intéressants. C'est un peu caricatural, mais c'est pour que vous compreniez qu'on est quand même sur des trucs assez basiques. Après, si vous voulez créer des systèmes d'intelligence artificielle, en soi, vous avez besoin de deux choses. Des grandes sources de données et les meilleurs algorithmes. Et c'est là où, en fait, les GAFA n'ont pas plus d'avance que n'importe quel hôpital français. Parce que je vous ai dit que tous les algorithmes étaient disponibles en open source sur Internet. D'ailleurs, Facebook, tout ce qu'ils produisent en intelligence artificielle, ils le rendent open source. Est-ce que vous savez pourquoi ils font ça et pas les autres? Vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit... L'intelligence artificielle, c'est une technologie. Facebook, eux, ils ont des usagers sur leur plateforme. Et c'est les seuls à pouvoir mettre leurs usagers et cette technologie en lien. Donc, ils s'en fichent que les autres développent des choses. Parce que s'ils n'ont pas envie que les autres mettent leur intelligence artificielle sur leur plateforme, ben, ils décident de ne pas le faire, tout simplement. Donc, eux, ils mettent tout open source pour que les gens reprennent leur travail open source, l'améliorent, parce que derrière, ils le reprennent et ils peuvent fournir quelque chose de mieux à leurs usagers. Mais en fait, ils ont des usagers captifs. Donc, ils décident eux-mêmes de ce qui est une innovation ou pas sur Facebook. Et les hôpitaux, c'est pareil. Considérez l'hôpital comme une énorme plateforme. C'est aussi l'hôpital qui décide de ce qu'il met ou pas à l'intérieur. Donc, c'est lui qui décide de ce qui devient une innovation en son sein. Donc, en soi, les GAFA n'ont pas plus de capacité que les autres à pouvoir développer des systèmes d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, parce qu'ils ne possèdent pas les données de santé, à part celles qu'ils volent, bien évidemment, comme on l'a expliqué à Londres. Donc, concrètement, on peut faire des partenariats. Et on a en France la chance d'avoir les plus grands instituts de formation et de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a des gens qui sont incroyables. On fournit notamment les GAFA, merci Président, parce qu'ils viennent tous ici et ils travaillent en collaboration avec nos chercheurs. Et donc, on a la capacité de faire des choses, en fait. Et il y a des gens qui disent, mais regardez, la Chine, ils mettent des milliards en fait sur l'intelligence artificielle. Mais si, par exemple, si moi, je veux gagner Roland-Garros, ou si Nadal, il veut gagner Roland-Garros, ben Nadal, il s'entraîne un mois, il peut gagner Roland-Garros. Moi, il faut que je m'entraîne 20 ans, 30 ans pour gagner Roland-Garros. Donc forcément, il y a un investissement qui est plus fort, parce que je pars de plus loin. Les Chinois, ils n'avaient rien en intelligence artificielle. Donc forcément, ils sont obligés de mettre des milliards pour récupérer l'avance qu'ils n'avaient pas. Les Français, on a toujours été à la pointe. Donc, on n'a pas forcément besoin de mettre autant d'argent. Et donc, on n'est pas obligé de travailler avec les géants du numérique qui, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, les algorithmes sont open source et disponibles sur Internet. Donc, attention à la marketisation de la science. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est en train de parler de numérique. Et l'économie du numérique, c'est une économie de l'offre, pas du besoin. Dans le domaine de la santé, on est sur une économie du besoin. On a besoin de soigner cette maladie, on a besoin de mieux diagnostiquer ça, on est sur du besoin. Le numérique, on nous offre toujours des choses qui ne sont absolument pas vitales. On vous fait après comprendre ou croire qu'on doit absolument l'avoir. Et c'est exactement ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, ça date de ce changement de stratégie qu'ils ont eu. Ils ont toujours été un peu balèzes là-dessus, mais en 2012, ils ont vraiment accéléré sur leur capacité à vraiment à manipuler en fait les gens sur les nécessités du monde. En fait, en 2012, Google sort les Google Glass. Et ils disaient, mais notre produit est tellement fantastique, tout le monde va l'utiliser. Attendez, vous le mettez, vous pouvez plus vous perdre, vous pouvez prendre des photos d'un clignement d'œil, ceci, cela. Et puis les gens, ils ont dit, mais on n'en a pas besoin. Et donc, ils se sont pris, ça avait beau être Google, ils se sont pris un mur, quoi. Économiquement, ça n'a pas marché. Et la Silicon Valley a cette faculté d'apprendre des échecs des autres. Déjà de ses propres échecs, c'est déjà une bonne chose, et en plus des échecs des autres. Et toute la Silicon Valley s'est dit, OK, innovation, c'est technologie plus usage, il faut préparer les usages. Et donc, même si aujourd'hui les systèmes d'intelligence artificielle ils sont pas prêts, regardez le lobbying culturel qu'ils ont fait. Il y a eu rapport parlementaire, rapport gouvernemental. On est en train d'en parler aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas eu d'avancée algorithmique depuis 2001. Mais ils se sont lancés en fait dans ce lobbying culturel parce qu'ils préparent tous nos esprits à l'utiliser. Moi, quand j'ai commencé en 2009, on parlait d'intelligence artificielle et les gens nous disaient, mais c'est de la science-fiction. Et je siège au conseil scientifique de Mines Télécom avec le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Stanford. Et une fois, on discute tous les deux et je lui dis, mais est-ce que tu en as pas marre en fait de toutes les conneries qu'on raconte? Et pourquoi tu dis dans le conseil scientifique ça, et tu ne le dis pas en fait plus ouvertement, vu la légitimité que tu as, tu pourrais un peu calmer les esprits. Il m'a dit, ça fait combien de temps que tu travailles dans l'intelligence artificielle? Je lui ai dit, moi ça fait 8 ans, parce que c'était il y a 2 ans. Dis-moi, ça fait 8 ans. Dis-moi, ça fait plus de 30 ans. Et pendant 30 ans, je me suis toujours battu pour trouver des crédits de recherche. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent qu'il ne m'en faut. Je vais bien me garder de dire qu'il n'y a pas eu d'avancée algorithmique et que les seules avancées sont dues à une amélioration de l'accessibilité à des clusters de données. Et puis il y a une autre chose, c'est l'apparition des processeurs de cartes graphiques qui font en fait les calculs en parallèle et puis à la suite, ce qui permet de diminuer les temps de calcul de manière considérable. Donc attention à la marketisation de la science, mais sur les objets connectés, j'ai vu que c'était le propos de ce matin, sur tout un tas de sujets, en fait, on vous raconte des tonnes et des tonnes de choses. Prenez du recul, prenez le temps de réfléchir, et puis surtout quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est quel est son intérêt en fait? Est-ce qu'il a un truc à vous vendre? Donc s'il a un truc à vous vendre, attention. Donc, demain, un personnel augmenté. Pourquoi augmenter et pas remplacer? Parce que on est en fait dans le dilemme, est-ce qu'on est humain versus machine ou est-ce qu'on est humain plus machine? Ben, les forces de l'humain et les forces de la machine, il y en a des communes, mais elles sont surtout complémentaires. Donc, en fait, humain plus machine, notamment sur l'analyse des systèmes complexes, donc des décisions qu'on doit prendre dans le domaine de la santé, on sera toujours meilleur que humain seul ou machine seul. Donc il ne va pas y avoir forcément un remplacement, par contre il va y avoir une évolution probable des métiers, et puis peut-être une amélioration de la productivité ou des choses comme ça. Alors je sais que le terme productivité et soins, ça fait toujours bizarre, mais voilà, on va pouvoir faire peut-être plus de choses. Un radiologue, par exemple, va peut-être avoir un algorithme qui lui dit, bah, écoute, à la place de regarder ces 200 clichés de radio, regarde peut-être celui-ci, celui-ci et celui-ci, j'ai détecté des choses intéressantes. Donc grâce aux technologies Big Data, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, en croisant les données et en détectant en fait des corrélations, peut-être qu'on va pouvoir améliorer en fait, parce que je vous ai dit, hein, les corrélations, c'est des hypothèses, donc des hypothèses de recherche. Donc on va peut-être pouvoir faire de la pharmacovigilance et de l'épidémiologie en quasi-temps réel. Vous savez, l'affaire du Mediator, c'est quoi? C'est des médecins qui se sont retrouvés en fait dans une convention et puis ils ont parlé de cas bizarres qu'ils avaient chacun eu et puis ils se sont dit, ben, il y a peut-être un truc en fait. Parce qu'ils ont tout simplement recoupé leur expérience. Alors là, on est à un niveau beaucoup plus bas que l'expérience. On est sur la donnée brute. Mais on pourrait probablement faire de l'épidémiologie et de la pharmacovigilance en quasi-temps réel. On pourrait aussi analyser les besoins de santé d'un territoire. Enfin, je dis on pourrait, mais on peut en fait, hein, déjà. On peut analyser les besoins de santé d'un territoire et peut-être mieux organiser en fait l'offre de soins. On peut aussi personnaliser les campagnes de santé publique. Aujourd'hui, sur Internet, les algorithmes qui vous vendent des pubs, ils essayent de vous cibler au mieux pour vous vendre des canapés, des voyages, des machins, des trucs. Ben, si à la place de vendre des canapés, des voyages, des machins, des trucs, on vendait des messages de santé publique, Ça pourrait être intéressant. Alors bien sûr, il faut les budgets, parce que les gens qui vendent des canapés ont plus de budget que les gens qui vous disent de ne pas trop fumer ou de ne pas trop boire et tout ça, mais c'est possible. On peut aussi segmenter les patients pour personnaliser les prises en charge. Vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué en fait sur les algorithmes de clustering. Ben, peut-être qu'il y a différents types de cancers du poumon. Et donc peut-être qu'il y a des prises en charge différentes. Donc je vais analyser. Et puis je vais essayer de déterminer ça, et donc je vais pouvoir en fait mieux segmenter et personnaliser mes prises en charge. On va pouvoir travailler sur l'aide au diagnostic. Parce que poser un diagnostic, c'est quoi? C'est faire des hypothèses. Et là, j'ai des technologies qui sont des générateurs massifs d'hypothèses. Donc ils vont pouvoir me proposer tout un tas d'hypothèses, qui vont peut-être pouvoir venir compléter en fait ma réflexion. On va pouvoir être aussi sur la sécurisation des prescriptions par détection des interactions médicamenteuses. Savoir toutes les interactions qui existent entre tous les médicaments, c'est très difficile. C'est très difficile à retenir. Et puis il y a des nouveaux médicaments en permanence. Mais il y a des bases qui expliquent en fait toutes les interactions qui ont déjà été détectées. Et bien, il y a des algorithmes qui pourraient tout simplement regarder tous les médicaments que vous avez mis dans la prescription, aller analyser ces bases et essayer de voir si dedans, il n'y avait pas des contre-indications. Et puis on va pouvoir faire de la recherche inversée. Aujourd'hui, comment on fait de la recherche? Aujourd'hui, quand on fait de la recherche, eh ben, on émet une hypothèse, et puis à partir du moment où on émet une hypothèse, on met en place en fait un protocole pour générer des données qui vont valider ou invalider notre hypothèse. Et à partir de là, du coup, on peut choisir et regarder si notre hypothèse était la bonne. Là, je vous ai dit qu'on a déjà des tonnes et des tonnes de données et qu'on a des générateurs massifs d'hypothèses. Donc on a des choses qui vont pouvoir, par exemple, nous dire, ben, regarde, toi en tant que biologiste, regarde peut-être là, moi j'ai détecté un très haut taux de corrélation. Attention, un très haut taux de corrélation, même à 100%, ce n'est pas une causalité. Je vous invite à regarder un site qui s'appelle Spurious Correlation. Ils ont mélangé des millions et des millions de données pour trouver des corrélations absolument absurdes. Par exemple, il y a un taux de corrélation de 99,2%, donc c'est quand même très haut, entre le taux de divorce aux États-Unis et la consommation de margarine dans le Maine. Pensez bien que ça n'a aucun rapport. Il y en a un qui est très marrant aussi, il y a un très haut taux de corrélation entre le nombre de films où il y a Nicolas Cage et le nombre de suicides par an aux États-Unis. Mais je ne pense pas que ça ait un rapport. Après, donc, il va y avoir des limites. Comme je l'ai dit, bien évidemment, il faut que les différentes sources de données elles soient interopérables. Il faut les ontologies communes, il faut leur expliquer que oncologie, cancérologie, carcinologie, c'est la même chose, que l'adénocarcinome, c'est un type de cancer du poumon. Il faut leur donner du bon sens, en fait, à ces algorithmes. Il faut travailler sur la complétude des données. Si les données ne sont pas complètes, si les informations ne sont pas présentes, l'algorithme ne pourra pas prendre les décisions pour. Travailler, bien évidemment, sur la fiabilité de la donnée, l'exemple que j'ai donné avec le cabinet de recrutement. Les problématiques d'anonymisation et de fort risque de cyberattaque. Là, je vais vous donner un autre chiffre, 4. 4, c'est le nombre de données de géolocalisation qu'il faut pour être plus discriminant qu'une empreinte digitale. Avec 4 données de géolocalisation, les GAFA sont capables de savoir qui il y a derrière ces 4 données de géolocalisation. Alors, le non-respect du théorème de CAPS, ça, c'est pour les gens qui font des bases de données. Et puis, la nécessité de data intégrateurs, c'est-à-dire les gens qui sont capables, en fait, de comprendre les données pour pouvoir dire à vos algorithmes, ben non, là tu t'es trompé ou pas. Et donc au niveau de l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire de l'aide à la coordination des acteurs de santé. Par exemple, il y a plusieurs hôpitaux publics qui ont commencé à travailler sur l'analyse en fait du profil d'un patient pour pouvoir prévoir en fait le parcours qu'il va faire à l'intérieur de l'hôpital et donc commencer à organiser toute la chaîne de soins. Donc c'est ce que je disais sur la prédiction des parcours. L'aide à la complétion des dossiers médicaux. Les algorithmes vont pouvoir aider en fait à dire, bah, écoute, là dans ton compte-rendu médical, normalement il devrait y avoir telle donnée, telle donnée, telle donnée, je ne les ai pas détectées, peut-être qu'il faut que tu les mettes. Et donc on crée de la donnée de meilleure qualité, et donc derrière on a des meilleurs apprentissages. Vous voyez, c'est cyclique. L'aide au codage, alors ça c'est une problématique financière, mais en fait aujourd'hui les hôpitaux sont payés par rapport en fait à une tarification à l'activité. Il y a des codes derrière chacun des actes, chaque code représente en fait une somme d'argent. Donc ça prend énormément de temps en fait pour faire les bons codages, mais l'hôpital est obligé, les médecins sont obligés de faire ça, sinon ben, l'hôpital ne gagne pas d'argent. Et s'il ne gagne pas d'argent, il ne peut pas tourner. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Avec les algorithmes, on pourrait bien évidemment accélérer tout ça. L'aide au traitement du signal, hein, en imagerie, en biologie, tous ces signaux qui sont produits par des machines, aujourd'hui les algorithmes sont déjà capables en fait de les traiter de manière très bien, parce que c'est une donnée qui est compliquée, pas complexe. La sécurisation des activités médicales, chirurgicales, pharmaceutiques, paramédicales. Par exemple, le CH de La Rochelle, ils ont développé une start-up qui en fait analyse ce que fait le préparateur en pharmacie quand il prépare une poche de chimiothérapie. Est-ce qu'il met les bons produits, les bonnes doses et toutes ces choses-là? Et s'il se trompe, l'algorithme lui dit, ben non, tu t'es trompé, je ne valide pas ta poche parce que si tu la donnes au patient, elle va tuer. Et donc, ils ont ben, réduit à zéro en fait le nombre d'erreurs qu'il y avait. Vous voyez, donc on a des algorithmes qui sont déjà très intéressants. Et puis le développement de simulateurs réalistes pour la formation. Vous avez déjà dû voir des choses en réalité virtuelle ou des choses comme ça. Bah, pour avoir des interactions qui sont beaucoup plus réalistes et donc une formation qui est beaucoup plus intéressante, il faut que les algorithmes soient très bons. Et ça, c'est très impactant. Je vais vous donner encore un dernier chiffre, probablement. Quand je vous dis quelque chose ou quand vous lisez quelque chose, malheureusement, vous allez retenir que 10 à 20% de l'information. Là, de ma conférence, vous n'en retiendrez que 10 à 20%. Quand vous faites quelque chose, vous retenez jusqu'à 90% de l'information. C'est pour ça que se former par la simulation, c'est beaucoup plus impactant, en fait. Alors après, il y a les limites. Alors, un point qui est très important, vous avez parlé d'IA forte. J'évite d'employer ce terme IA forte, IA faible, parce qu'on a l'impression qu'une IA faible, on peut l'améliorer, puis elle peut devenir forte. En fait, aujourd'hui, il y a deux types d'intelligence artificielle qu'on peut distinguer. Les intelligences artificielles verticales, donc elles font une seule chose, très bien et possiblement de mieux en mieux, et les intelligences artificielles horizontales qui, elles, seraient capables de faire plein de choses et d'apprendre des nouvelles choses par elles-mêmes. Celles-là n'existent pas. Et ce n'est pas en cumulant plein de verticales qu'on a une horizontalité. Et aujourd'hui, on ne sait absolument pas comment ça fonctionne. On n'a aucune théorie d'intelligence sur ces choses-là. Donc, les intelligences artificielles qui vont prendre le contrôle de l'humanité, non. C'est plutôt l'humain qui aurait derrière la problématique et pas l'algorithme lui-même. Les problèmes de lissage du modèle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des algorithmes qui apprennent avec les données et en fonction des occurrences d'apparition, en fait. Plus quelque chose apparaît, plus je vais apprendre à partir de ça, et moins quelque chose apparaît, moins je vais le considérer. Et même parfois, il y a des choses qui sont tellement divergentes et présentes en faible quantité qu'en fait, je vais les ignorer. Et ce qui fait qu'en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle sont extrêmement conservateurs. Parce qu'une nouvelle pratique, par exemple, elle apparaîtra au début une fois, donc l'algorithme ne va pas la considérer. Il va l'effacer. Il va dire non, ce système de prise en charge, il est absurde, c'est un artefact. Donc il faut faire attention aussi à ça. Les problèmes de formatage des modèles, hein, comme je vous ai dit, le système du cabinet de recrutement. Voilà. Donc, les problèmes de compréhension du mécanisme du résultat, comme je vous ai dit, c'est des systèmes qui sont boîtes noires, c'est des tonnes de boutons qui ont été auto-paramétrés. Donc si je regarde à l'intérieur, je suis incapable de savoir en fait comment il a généré mon résultat. Donc ça, c'est une vraie problématique pour l'explicabilité en fait des résultats. Et puis, je reviens vraiment sur deux problèmes que j'ai évoqués, mais qui sont très importants et qu'il faut vraiment retenir. Les problématiques de design éthique, hein, donc ces bubble filters qui vous enferment dans une caricature de vous-même et de vos choix. Et les problèmes d'intelligence économique, hein, où ceux qui vous fournissent de l'intelligence artificielle captent l'intégralité de votre capital informationnel. Donc assez rapidement, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des choses qui vont travailler sur des tâches plus compliquées, à fort volume d'informations et répétitives. Donc on va pouvoir se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Qu'il va y avoir une nécessité, bien évidemment, d'avoir des gens qui sont des data intégrateurs, c'est-à-dire qui sont capables de comprendre en fait les données qu'ils sont en train de manipuler ou les réponses qui ont été formulées à partir de ces données. Et puis en fait, ce qu'on a fait au sein du fonds FHF, parce qu'il y a plein de projections, mais qui sont vraiment au doigt mouillé sur l'impact en fait de l'intelligence artificielle sur ces métiers, c'est qu'on a créé un modèle mathématique en fait qui nous permet de comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur 11 dimensions d'une tâche. On a référencé 241 métiers de l'hôpital, plus de 3000 tâches, et on va lancer une grande étude où on va inviter en fait les professionnels de santé hospitaliers à venir nous décrire les tâches qu'ils font dans leur quotidien. Et à partir de cette description, en fait, le modèle mathématique va être en capacité, par rapport à ces 11 dimensions, de déterminer si cette tâche pourra être complétée par le numérique, remplacée par le numérique, ou ne rien faire. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Abon pour ces explications et ce retour à la réalité. Avant de faire une pause, certaines personnes désiraient peut-être poser des questions à Monsieur Abon, n'hésitez pas. On dirait que tout était clair. Où ?
Bah, merci beaucoup pour tout ça, parce que c'est assez fictionnel, c'est assez intéressant. Ça fait à la fois peur, mais c'est à la fois fascinant. Donc c'est, voilà. Pour revenir un peu sur un côté à peu près terre à terre, On sait aujourd'hui que les hôpitaux et le système de santé français est assez malade au niveau de ses finances. Tout ça est bien joli, mais quid du coût de tout ça? Combien faudrait que l'État investisse pour qu'on ait des hôpitaux flambant neufs dans ce domaine-là?
Alors, des hôpitaux flambant neufs ou des hôpitaux avec de l'intelligence artificielle? Parce qu'on peut être flambant neuf sans IA.
Bah, les deux, en fait.
Alors, bah, là, c'est pareil. Si vous voulez, il y a un grand mythe hein, sur l'hôpital public, mais même sur les services publics de manière générale. L'hôpital public, ça coûte cher. Alors, on a fait une étude, nous, parce qu'on nous dit que ça coûte cher. On s'est dit, OK, mais je n'ai pas l'impression, en fait. J'ai l'impression que l'hôpital public, en soignant sa population, il lui permet d'aller travailler, il permet de mieux vieillir, donc de coûter moins cher dans les années où ça coûte très cher, où c'est avec 5% des patients génèrent 50% des coûts du système de santé. Donc peut-être que si ces gens n'étaient pas dans des états déplorables et polypathologiques parce qu'on les avait mieux pris en charge, ils coûteraient beaucoup moins cher. Donc on a fait une étude et on a montré que 1 euro mis dans l'hôpital public génère entre 1,8 et 2,4 euros de PIB. Donc les hôpitaux publics, dans cet état que vous décrivez, c'est avant tout un choix politique. C'est absolument pas une contrainte économique. Parce que plus vous mettez dans l'hôpital public, plus ça génère de PIB, tout simplement. Et en plus, la santé, c'est très difficilement délocalisable. Donc en plus, c'est un investissement qui est extrêmement intéressant. Ben, comme je vous l'ai dit, on a des systèmes informatiques qui sont assez déplorables, malheureusement. Après, est-ce qu'ils sont obligés de se pluguer à ces systèmes? Ça dépend de ce qu'on y fait. En soi, les algorithmes, ils sont open source. Donc si vous prenez des chercheurs de l'INRIA, de l'Institut Mines Télécom, que vous les faites travailler avec des professionnels de santé, des hôpitaux, comme on le fait en fait, on n'a pas forcément besoin de 1000 et 200 pour utiliser en fait des systèmes comme ça. Et il y a des hôpitaux aujourd'hui qui intègrent déjà de l'intelligence artificielle sur certains aspects. Donc ce n'est pas forcément des choses qui vont coûter extrêmement cher. Si on pense, et c'est l'objectif des GAFA, qu'on est obligé de passer par eux et tout ça, bien évidemment on va payer le coût de la licence. En plus de toutes les problématiques d'intelligence économique que je vous ai décrites et d'autres. Donc, c'est des algorithmes qui sont open source sur Internet. Le prix de l'open source, il est de zéro. Donc après, il y a une autre problématique, c'est les compétences nécessaires en fait, pour maintenir ça. Donc on en a parlé au cabinet de la ministre. Et vous savez qu'ils vont mettre en, fait, en place le Health Data Hub, qui est en fait le regroupement de plein de données de santé pour la recherche. Et en fait, le Health Data Hub ne va pas être une énorme base de données au même endroit. Ça va être un registre qui va détenir en fait l'information sur où est telle donnée, et il y aura des vraies, cette fois-ci, bases de données centralisatrices dans les régions. Et donc le ministère a prévu de mettre des data scientists à disposition au niveau des ex data hubs régionaux qui pourront être sollicités par les établissements pour travailler sur des choses comme ça. Par ailleurs, vous savez que le domaine de la santé, on a cet avantage que énormément de gens veulent bien travailler, même parfois bénévolement, pour nous, parce qu'on est sur un métier qui a énormément de sens. Nous, par exemple, on a fait travailler un directeur artistique qui s'occupe des campagnes de LVMH sur une application, en fait, sur une maladie rare, sur l'incontinence chronique pédiatrique. Donc, vous voyez, on passe du très glamour au pas du tout glamour. C'est le meilleur projet qu'il a fait dans sa vie, d'après lui. Tout simplement parce que dans ce projet-là, il y avait du sens. Et il y a énormément de gens, de développeurs, de communautés open source et tout ça, qui acceptent, en fait, de venir travailler pour l'hôpital et de développer des choses. Donc ça va dépendre de comment on fait les choses, en fait. Il y a un énorme système collaboratif autour de tout ça, c'est des technologies qui sont open source. On a des laboratoires de recherche qui sont très avancés, on a beaucoup de thésards qui veulent travailler sur ces domaines-là, qui veulent faire de l'applicatif et tout ça. Ça va pas forcément coûter très cher. Après, ça dépend toujours comment c'est fait. Et puis, il va y avoir une autre chose, il y a toujours deux faces, c'est je conçois mon innovation, et après, comment je fais en sorte qu'elle soit pas présente uniquement dans l'hôpital où elle a été conçue, mais dans tous les autres. Cette phase de déploiement, c'est peut-être généralement ce qui manque à l'innovation hospitalière en France. C'est-à-dire qu'on fait des super trucs, mais comment on fait en sorte pour qu'elles soient présentes dans les 1000 hôpitaux en fait, publics et pas seulement dans quelques-uns? Et là, il faut peut-être investir, oui, parce qu'il y a tout un procédé de management du changement, parce que vous changez les usages.
Bonsoir. Bon, tout d'abord, merci pour la clarté et la richesse de votre intervention. Alors, si j'ai bien compris, en fait, les algorithmes ne sont uniquement que des outils et ne peuvent traiter, bien évidemment, que les données que l'homme, que l'humain, lui donne. Et derrière tout cela, pour moi, il y a un problème éthique que vous avez suggéré à certains moments, mais qui n'a pas été développé.
pouvez répéter votre question ?
Qu'est-ce que l'on peut faire ? Jusqu'où peut-on aller, justement ?
Ah, pour contrôler les hommes, oui, derrière les outils ?
Oui. Problème éthique.
Ça, c'est la question avec n'importe quel outil. Hein. Une hache, c'est très bien pour aller couper du bois, c'est moins bien pour aller couper des hommes. Ouais, on n'a pas fait un truc spécifique pour la hache. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a beaucoup d'éducation à faire, déjà, à réexpliquer ce que c'est réellement. C'est-à-dire que c'est surtout un logiciel, c'est surtout un algorithme. Certes, qui a des capacités peut-être plus fortes que d'autres, et puis qui se paramètre un peu par lui-même. Mais quand vous concevez un algorithme d'intelligence artificielle, vous êtes toujours obligé de le tester. Après la phase d'apprentissage, vous le testez et vous détectez ses faux positifs, ses faux négatifs. Et puis, on a participé là aux recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'évaluation de ces systèmes. On a aussi travaillé sur deux autres choses. C'est quels sont les caractères qu'il prend en entrée. Parce que je vous dis qu'à l'intérieur, si je reprends rapidement... Oui, en fait, sur cette couche-là, on peut regarder en fait ce qu'il regarde. Est-ce que pour lui, le sexe est une information importante dans le CV ? Ça sera marqué sur cette couche. Et puis, on peut regarder la couche tout en haut, quels sont l'ensemble des résultats qu'il fournit. Et si on voit qu'il prend en entrée des choses qui ne sont pas éthiques, on peut annuler ce neurone. Et si on voit en sortie qu'il n'offre pas certains choix, on peut aussi agir sur les données d'apprentissage pour qu'en fait, il propose ses choix. Parce que généralement, s'il ne propose pas le choix, c'est qu'elle n'était pas assez représentée dans les données d'apprentissage. Donc, c'est que notre modèle n'était pas représentatif de la réalité. Donc, on peut travailler, même si on ne sait pas exactement comment c'est, on peut regarder ce que les gens ont produit. Et aujourd'hui, il y a même quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est une question à pousser, c'est une réflexion qu'on a en ce moment. Il y a des gens qui ont créé ce qu'on appelle des algorithmes génératifs. Donc, en fait, c'est des algorithmes qui vont générer des données. Et en fait, si quelqu'un... Parce que ça pourrait tuer économiquement le marché de l'intelligence artificielle, en fait. Parce que si quelqu'un a créé un modèle qui est capable de vous donner des réponses, ben vous le couplez à un modèle qui va générer des données. Et tout simplement, il génère des données, il dit, est-ce que j'ai créé une bonne donnée ? Non, oui, non. Et vous pouvez recréer des sets de données et réapprendre exactement ce que l'autre avait réappris. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plus personne n'a de monopole sur rien, parce que vous pouvez régénérer n'importe quel modèle. Vous voyez ? Donc, il y a encore beaucoup de questionnements, en fait, sur ça. Mais derrière, c'est l'éthique des humains. Je pense qu'après, c'est au droit de faire les choses. Ça reste un outil. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Et il y a eu beaucoup de choses qui avaient l'air d'être sur le dédouanement des gens. L'utilisateur est responsable. Moi, je suis désolé, hein, le médecin, il devra être responsable. Il peut se fier comme il peut contredire. Après, il faut lui donner les armes pour... C'est-à-dire qu'il faut lui apprendre comment ça fonctionne, il faut lui donner confiance en lui pour que dans des situations particulières, par exemple, ils soient en capacité de dire bah, « Ok, là, il s'est planté ». Et puis, il va y avoir aussi l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur le cancer, la grosse avancée qu'il y a eu, c'est que maintenant, il n'y a plus un cancérologue qui prend la décision tout seul, c'est qu'on fait des RCP, en fait, on réunit plusieurs cancérologues avec des disciplines différentes de la cancérologie, et ils apportent chacun leur expertise pour prendre le meilleur choix, et on fait comme ça. Et bien, peut-être que l'intelligence artificielle va être une quatrième personne, parce qu'il y a la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, c'est trois approches, donc généralement, c'est trois personnes quand même, et peut-être que l'intelligence artificielle va être un quatrième fournisseur d'idées sur la stratégie. C'est ce que IBM Watson d'IBM donc veut faire. Mais je vous invite à regarder l'enquête de Stat News sur IBM Watson, parce que c'est pareil, ils nous ont fait une pub fantastique. Regardez, IBM Watson accompagne les médecins et tout. Et puis ils se sont fait virer du MD Anderson, un hôpital américain, puis ça a coûté 40 millions de dollars à l'hôpital. Du coup, l'équivalent de la Cour des comptes du Texas a regardé un peu le dossier. Puis ça a alerté certains journalistes qui travaillent dans des magazines technologiques. Puis ils ont été au MD Anderson. Et puis on leur dit, bah, pourquoi vous avez viré le truc ? Ben, ça donnait des mauvais résultats, ça n'a jamais rien apporté en fait. Ça se trompait très souvent, ça donnait des cocktails médicamenteux qui sont toxiques, enfin bref, ça faisait n'importe quoi. Donc ils ont été voir dans d'autres hôpitaux, et en fait les gens leur ont dit un peu tous la même chose partout. Donc IBM Watson tire un peu la gueule aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils attaquent beaucoup le marché européen, parce que c'est pas, malheureusement, on lit pas trop Stat News, mais en vrai... Et donc, ils essayent de vendre leur truc avant que ça soit trop tard. Mais voilà, il y a énormément de questions, mais je pense que derrière, c'est formation, acculturation des gens, reprendre possession un peu sur le... Enfin, voilà, avoir des vrais experts. Il y a tellement de gens qui sont des pseudo-experts sur ces trucs-là. Parce qu'on est sur des domaines d'interface, en fait. Et c'est toujours là où vous avez le plus de gens qui racontent n'importe quoi. Parce que, par exemple, l'intelligence artificielle en santé, ben vous n'êtes pas très bon en intelligence artificielle et pas très bon en santé, ben ce que vous allez faire, c'est quand vous tombez sur les gens de la santé, ben vous allez plutôt leur parler d'intelligence artificielle, puis vous allez les bluffer. Et quand vous tombez sur les gens d'intelligence artificielle, vous allez plutôt parler de la santé, puis vous allez les bluffer. Mais en fin de compte, vous n'êtes ni bon dans l'un, ni bon dans l'autre, et c'est le cas de beaucoup de pseudo-experts en fait, dans ce domaine-là. Mais c'est beaucoup sur les technologies numériques, parce que c'est une industrie de gaufres, il y a un énorme lobbying culturel à faire pour vendre, et donc c'est la stratégie qui est aujourd'hui en place.